Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 7 octobre 2014. Bienvenue à ce grand dialogue du Studio Tamani. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la rentrée scolaire sur l'ensemble du pays. Nous ferons successivement le point de la situation au plan national et nous verrons si l'assainissement annoncé du secteur de l'éducation est possible aujourd'hui. Et nous verrons également cette question, où en est-on avec la réforme des structures communautaires au Mali. Nos invités, Dugamadi Sissoko de la Fédération Nationale des Parents d'élèves, Amadou Koulibaly, du syndicat national de l'éducation de base qui est en cours de route, et Étienne Fakaba Sissoko, universitaire. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Djouara est à la technique.
Studio Tamani.
La rentrée scolaire n'est pas effective dans la plupart des localités au nord du pays. Dans les cercles de Menaka et dans Songo, en région de Gao, les conditions sécuritaires n'ont pas permis le démarrage des activités scolaires. À Kidal, la situation scolaire s'est dégradée. Compte tenu de la situation actuelle du pays, la rentrée scolaire n'est signalée dans aucun endroit de la région. La reprise scolaire est effective dans les autres régions du pays. La timidité est en outre constatée par endroits à cause de la mouvance de la fête de Tabaski, qui continue. Alors, le premier volet donc de ce débat, le point de la situation au plan national. La situation est-elle satisfaisante, Étienne Fakaba Sissoko?
En termes de préparatifs, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a un travail préliminaire qui a été effectué par les autorités pour que cette rentrée puisse se passer dans les meilleures conditions. Mais au-delà de ça, c'est encore une fois de plus, depuis 3 ans maintenant, que c'est la situation des régions du Nord qui revient, avec l'impossibilité d'organiser des rentrées dignes de ce nom. Et au-delà de ça, il y avait un ensemble de mesures qu'on aurait dû prendre en termes de refondation de notre système éducatif, en termes de mesures à prendre pour lutter efficacement contre la corruption, contre les grèves à répétition, des mesures aussi qui auraient dû être prises pour améliorer les conditions de vie des enseignants, améliorer leurs conditions de formation. Mais hélas, on commence cette nouvelle année de la même façon que nous avons terminé l'année dernière, parce que le panel de mesures qui aurait dû être prises manque crucialement. Donc, au cours de cette année, nous allons avoir les mêmes résultats que nous avons eus l'année dernière, parce que, encore une fois de plus, il y avait énormément de boulot à faire pendant ces vacances qui, malheureusement, n'ont pas été faits.
Alors, sentiment donc mitigé pour Monsieur Sissoko. Alors, deuxième Sissoko, Dugamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves. Alors, les parents d'élèves se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir été assez impliqués dans le processus de redémarrage de l'école aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours votre avis,
bon, Dugamadi Sissoko? Excusez-moi, mais c'est pas partout la même chose. Moi, j'étais vraiment impliqué au ACATI par mon commandant de cercle. Et mon directeur d'académie. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas sonné jusqu'à présent la fin de la récréation pour nos enfants. Parce que cela s'explique par beaucoup de choses. On a permis à nos enfants de se conduire de façon peu orthodoxe. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas parvenus à leur dire c'est comme ça. Et ça doit se faire comme ça. En tant qu'ordre parental.
Vous voulez parler là des lacunes qu'il y a eu lors c'est de ça. La préparation des examens.
Parce que ce que j'ai remarqué ce matin, c'est que beaucoup d'élèves ne sont pas venus. Nous avons passé dans certaines écoles à Kati là-bas, bon, certains élèves ne sont pas venus. Et même mieux encore, certains enseignants n'étaient pas là. Eux qui sont censés donner l'exemple n'étaient même pas là. Alors, comment on peut en vouloir à l'enfant alors? Mais je dis que jusqu'à présent, il faut maintenant sonner la fin de la récréation pour que finissent maintenant tous ces comportements orthodoxes.
Alors, Amadou Koulibaly du syndicat national de l'éducation fait son entrée dans ce studio. Amadou, comment voyez-vous cette journée, cette première journée d'école?
Bon, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Pour nous, la rentrée s'est bien passée. Et nous attendons maintenant le déroulement de l'année scolaire et voir ce qu'on peut faire ensemble pour qu'on puisse réussir une année pleine. Cela aussi dépend, comme
Ceci, c'est ce qu'on vient,
ce vient de le dire. Ça dépend des parents d'élèves, ça dépend de nous les enseignants. Ça dépend également des départements chargés de l'éducation. Et je crois ensemble, nous allons voir ce que nous pourrons faire pour la réussite de cette année.
Alors, vous n'étiez pas là lors du début de cette émission, je le disais tout à l'heure. La plupart des régions du Nord, les localités du Nord n'ont pas procédé au redémarrage de l'école. Est-ce que vous pouvez nous dire le sentiment aujourd'hui qui est celui des enseignants par rapport à cette situation toujours aux arrêts dans le Nord?
Par rapport au Nord, vraiment, nous sommes toujours frustrés. Parce que nous avons des anciens jusqu'à présent qui se trouvent au niveau du sud, qui n'arrivent pas à aller à Kidal ni à Gao, faute d'ouverture des classes, parce que toujours il y a la sécurité qui prévaut jusqu'à présent au niveau du nord. Donc voilà, vraiment, nous sommes désolés de le dire, mais nous sommes frustrés aujourd'hui.
Absolument.
Il faut que l'État mette, c'est-à-dire tous les moyens, pour qu'on puisse pallier à ce problème. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça.
Ok, alors nous allons rester toujours dans la même mouvance. L'aspect sombre du tableau, c'est donc cette rentrée qui n'a pas eu lieu dans certaines localités du Nord, comme Kidal. Peut-il exister sur place une école des Nations Unies, comme c'est le cas, par exemple, dans la bande de Gaza, Étienne Fakabassou?
Non, je crois que ce serait une erreur aujourd'hui d'aller vers un tel système. La priorité de mon point de vue, c'est recouvrer l'intégrité de notre territoire. Et c'est à cela que l'ensemble de nos autorités, l'ensemble du peuple malien est en train de s'atteler actuellement. Quand vous regardez, de toute façon, les chiffres même du gouvernement disent qu'il n'y a que 26% des enseignants qui sont aujourd'hui retournés, malgré les mesures d'incitation mises en place par le gouvernement. Parce qu'ils avaient dit que tout professeur qui retournerait allait bénéficier dans un premier temps d'un montant de 100 000 francs pour l'aider à aller sur place. Et une fois sur place, 150 000 pour
d'installation,
effectivement. Donc aujourd'hui, malgré toutes ces mesures-là, vous remarquerez qu'à Tombouctou encore, ils ne sont que 88% des enseignants à être sur place. Et à Gao, encore moins de 80%. Donc ce qui pose énormément de problèmes en termes d'encadrement de ces enfants-là. Et aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait des statistiques en termes de présence des élèves sur place. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune statistique fiable qui peut nous prouver qu'il y a encore des enfants sur place qui veulent aller à l'école. Et même si il y a ça, les Nations Unies ne peuvent pas assurer la sécurité de ces enfants. Vous avez vu, même à Tombouctou...
L'AMUNISMA est sur le terrain.
L'AMUNISMA est sur le terrain, mais vous avez vu les attaques à répétition dont l'AMUNISMA elle-même a été victime, avec des forces tchadiennes qui ont payé le prix, les forces nigériennes récemment. Donc tout cela montre
que... Ça, c'est un convoi militaire. Est-ce que s'il y a une école digne de ce nom, elle ne serait pas épargnée par les terroristes?
Je crois que c'est envoyer les enfants à la boucherie de penser à mettre en place un tel système. Parce que rien aujourd'hui ne garantit que leur sécurité sera en place. Si c'était le MNLA qui était le problème, on aurait pu espérer, parce qu'ils sont en négociation avec le Mali en Alger. Mais aujourd'hui, on ne sait pas à qui est-ce que nous avons affaire. Parce qu'aucune identité formelle n'est identifiée comme étant auteur de ces attaques à répétition.
Alors, en restant spectateur, faut-il abandonner ses enfants?
Non, je dis encore une fois de plus que c'est de la responsabilité des autorités maliennes de faire en sorte que nous puissions le plus tôt possible recouvrer notre intégrité territoriale. Et cela ne peut pas se faire en étant seul. Il faut qu'on ait l'appui de la communauté internationale qui, malheureusement, n'a pas pris encore l'ampleur de la crise malienne. Parce qu'ils sont en train de traiter justement cette question en Syrie, cette même question en Irak, et avec une intervention très, très corsée. Et aujourd'hui, le peuple malien a le sentiment d'être laissé à son propre compte. Et cela, si on ne prend pas de mesures urgentes, c'est une situation qui peut se retourner contre eux dans quelques années. Parce que nous devenons de plus en plus un bastion de formation de djihadistes qui, on ne sait pas où est-ce qu'ils qui peut finir.
Alors, permettez-moi de rester un peu encore davantage sur ce point en cette période de trouble dans cette partie du pays. Faut-il craindre que les enfants et les jeunes déscolarisés ne soient tentés à faire autre chose car n'ayant plus d'activité à temps plein, Monsieur Sissoko, Djougamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves?
Bon, je pense que vraiment, ce n'est pas la peine de se voiler la face. Hein. Il faut se dire la vérité. Moi, je suis de la vieille génération. Je n'ai pas l'habitude de caresser dans le sens des poils. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire ce qui se passe en réalité. L'État a un rôle à remplir. Et nous également, citoyens, nous avons des rôles à remplir également. Concernant le départ de ces anciens-là dans le Nord, la plupart sont allés récupérer leurs sous et puis sont revenus à la maison. Ça veut dire quoi? C'est que toutes les vérités n'ont pas été dites. Et puis, concernant même les enfants, tout parent d'élève aimerait que vraiment l'enfant aille à l'école. Il ne peut pas se réjouir du tout du fait que son enfant soit à la maison, qu'il y a ceci, cela. C'est à l'État de régler tout ça. Mais il faudrait vraiment qu'on s'y mette tous à la fois. En se disant la vérité, en travaillant dans le bon sens. Parce que moi, je vois que même cette histoire dans le Nord profite à beaucoup plus de gens qu'il ne dérange, en réalité. Est-ce qu'on ne veut pas même en faire une machine de commerce? Je m'abstiens, je me tiens là, parce que vraiment, je ne tiens pas à déranger votre émission, mais je tiens quand même à émettre mon point de vue, parce que je n'aimerais pas quitter le tam-tam pour aller battre le ventre ailleurs. Je préfère d'abord qu'on avance, on aura à revenir sur tout ça après. Hein?
Alors, à défaut d'une structure des Nations Unies pour encadrer les enfants déscolarisés dans les zones comme Kidal, est-ce que vous pensez, les deux précédents invités l'ont dit, ils souhaitent aujourd'hui une présence de l'administration malienne dans le Nord plutôt qu'une structure à l'échelle internationale? Est-ce que les enseignants sont de cet avis?
Bien sûr. Le Mali, ça nous appartient.
Je tiens à rappeler qu'Étienne est également enseignant, mais le syndicat national de l'éducation de base est-il de cet avis?
Tout à fait. Notre pays nous appartient. Il l'a dit. Il ne suffit pas de donner 100 000 ou 150 000 francs, 250 000 francs aux enseignants pour aller enseigner. Or, il n'y a pas la sécurité. C'est dangereux.
En attendant que l'État trouve le moyen d'assurer la sécurité dans ces zones, que reste-t-il aujourd'hui aux enfants qui n'ont pas demandé cette situation?
Bon, maintenant, c'est à l'État de trouver une solution par rapport à ça. C'est à l'État.
Étienne Fakaba veut ajouter quelque chose.
Quand vous prenez la loi d'orientation éducative, il est clairement dit que l'éducation est un droit pour tout enfant, pour tout Malien. Et aujourd'hui... L'État devait penser à mettre des dispositifs en place dans les endroits où il y a la sécurité, entre guillemets, pour accueillir ces enfants-là. Mais aujourd'hui, c'est ce qui n'a pas été fait. Et vous avez vu l'année dernière, quand on finissait l'année scolaire, il y avait encore des gens qui ne pouvaient pas aller à l'école. Et on les a rapatriés vers Bamako, mais après, ils ont été laissés à leur compte. Et ils ont été obligés de chercher d'autres foyers où s'insérer progressivement. Or, il devait y avoir un mécanisme cohérent qui aurait pu inciter même, au lieu d'inciter les gens à aller dans un endroit où il y a l'insécurité, on aurait dû les inciter à revenir vers le sud en mettant en place un dispositif qui permettrait leur accueil et leur insertion dans les différentes écoles. C'est ça qui aurait dû être fait et malheureusement, comme à son habitude, le gouvernement n'a pas pris la mesure de la situation et passe une fois de plus à côté.
Alors nous allons observer juste 2 secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie du débat.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Oui, les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et Twitter, Studio Tamani. Réagissez donc à ce que vous entendez en longueur de journée dans nos programmes ici à Medinakroa. Nous parlons aujourd'hui dans ce grand dialogue, le grand dialogue qui est à sa deuxième partie, de la rentrée scolaire 2014-2015. Et cette deuxième partie est consacrée à l'assainissement annoncé du secteur de l'éducation. Nos invités, Djougamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves, Amadou Koulibaly du syndicat national de l'éducation de base et Étienne Fakaba Sissoko universitaire. L'assainissement donc du secteur de l'éducation, les promoteurs d'établissements scolaires privés ont fait l'objet de beaucoup de reproches de la part des autorités maliennes sur un certain nombre de manquements aux normes prescrites. Certains établissements n'existaient même pas. Des contrôles ont été annoncés par Madame le ministre. Cela va-t-il aboutir, Monsieur Sissoko, Dukamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves?
Mais cela est tenu d'aboutir. On doit vraiment faire en sorte que vraiment cela aboutisse quelque chose de concret. Nous avons été ce matin dans certaines écoles, des privées, qui n'ont pas encore ouvert. L'État a envoyé, sinon quand même, leur a donné que certains élèves, comment on appelle ça encore, l'État a orienté pas mal d'élèves à leur niveau. Est-ce que bon, vraiment, ils doivent encore profiter de cette manne de l'État pour rien? Il faut se dire certaines vérités. Le privé, on en a fait une industrie mercantile qui ne dit pas son véritable nom. Même des petits, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec la profession, vont ouvrir des écoles spécialisées encore, et ne peuvent pas recruter les enseignants dignes de ce nom. Et ça, c'est quel genre de privé, ça? Et, je ne sais pas, maintenant, ils ne peuvent même pas assurer le salaire de ces éléments-là. Finalement, ils ont des comportements plus ou moins de voyous, plutôt que d'enseignants. Je m'excuse beaucoup auprès de mon confrère, mon ami et mon fils Koulibaly, mais il est temps maintenant qu'ils fassent le ménage à leur niveau, qu'ils s'assument, qu'ils soient des responsables. On ne peut pas aller sans eux. Le privé a toujours dit c'est que on fait des réclames pour dire qu'on a 80% de passages, 100% de passages. En réalité, ce n'est plus le même privé que nous avons connu avant.
Alors, il faut peut-être le rappeler, la plupart de ces écoles privées sont gérées par des anciens fonctionnaires. Les promoteurs, pour la plupart, c'est des anciens fonctionnaires qui trouvent là une manière de s'assurer une retraite assez paisible. Etienne Fakaba Sissoko, lors de la préparation des examens, le ministre a dénoncé le comportement peu orthodoxe de certaines structures privées. Et quelle est votre vision par rapport à ce cercle qui devient de plus en plus vicieux?
Moi, je crois que d'abord, l'État a démissionné. Parce que quand vous regardez sur les 84 345 élèves qui ont eu l'EDF cette année, il y a 36% qui sont envoyés dans les écoles publiques. Et le reste, les 64%, sont envoyés dans des écoles privées. Or, aujourd'hui, il y a en République du Mali une loi qui institue les modalités de création des écoles privées, notamment la loi 94-032, qui définit comment est-ce que les écoles doivent être créées, comment est-ce que les écoles privées doivent être créées, comment est-ce que les enseignants doivent être recrutés, comment leur formation permanente est assurée. Bref, toutes les modalités qu'il faut remplir pour pouvoir créer une école et assurer. Mais aujourd'hui, les services de contrôle qui vont dans ces écoles-là ne font pas leur travail, malheureusement. Toute personne qui a un 9 mètres carrés aujourd'hui se lève et a son agrément demain, sans que les conditions en termes de capacité d'accueil, en termes de suivi des enseignants, en termes de formation de qualité. Et après, on s'étonne justement que nos étudiants soient de mauvaise qualité, que le niveau soit relativement très bas. Donc, je dis encore une fois de plus que les mécanismes sont donnés à travers les différentes lois, à travers d'abord la loi d'orientation éducative et à travers la loi qui encadre la création d'écoles privées. Mais c'est le manque d'application justement de ces lois qui est à la base de ce problème que nous avons. Et on a voulu instrumentaliser dernièrement, on a voulu jeter quelques promoteurs d'écoles privées en prison récemment. Non, le problème est beaucoup plus sérieux que ça. Il faut entamer des réformes profondes actuellement. Et ces réformes ne peuvent pas se faire sans la création d'un ministère dédié exclusivement à l'enseignement privé, qui définira comment les agréments sont obtenus, comment le suivi doit être fait, comment est-ce que l'évaluation de ces écoles privées doit être faite, les diplômes qui sont délivrés dans ces écoles-là, comment tout cela se fait. Il faut que cela se mette en place le plus tôt possible. Mais tant qu'on continue avec ce système, on n'ira pas loin. Et il faut crédibiliser l'école publique. Parce que si vous voyez que ces écoles privées ont plus de poids, ont un grand poids, c'est parce que l'école
publique a perdu toute crédibilité. Voilà. Mmh. Donc il faut rendre à l'école publique sa crédibilité pour que nous puissions nous passer relativement de ces écoles privées-là.
Alors les enseignants ont été pointés du doigt lors de ces des derniers examens du bac et du DF, notamment dans le secteur privé. Est-ce que vous comprenez souvent les brimades qui sont adressées aux enseignants, M. Koulibaly?
Bien, nous l'avons toujours dit. Hein. Par rapport à ces examens, nous avons toujours demandé la moralisation de ces examens. Et Dieu merci, Madame le ministre a le dit, elle est un pur produit de ce pays. Mm-hmm. Elle n'a jamais étudié à l'extérieur. Mm-hmm. Elle a eu étudié au Mali, elle a eu ce diplôme au Mali. Donc si les examens sont moralisés, et nous l'avons rassuré de cela, ce qui est de notre côté, en ce qui concerne les enseignants, nous allons sensibiliser les enseignants par rapport à la moralisation de ces examens. Mais je dis quelque part, si vous voyez qu'il y a des dérapages au niveau de ces examens, ou bien il y a corruption, ou bien il y a ceci, cela, nous sommes tous fautifs.
Absolument.
Il y a l'administration, il y a les parents d'élèves. Mm-hmm. Il y a des parents d'élèves aussi, c'est pas l'ouverture. Et la fermeture, ou bien le jour des examens, mm-hmm. ils mettent pas pied à l'école. Ça pose énormément de problèmes à l'enseignant.
Absolument,
en tant que
c'est
tel.
Vrai.
Donc voilà des situations qui sont là, qu'ensemble, il faut qu'on trouve la solution pour qu'on puisse sortir de ce trou-là.
Alors, monsieur...
Oui, moi je voudrais ajouter, excusez-moi, moi je ne tiens pas les enseignants seuls responsables de ce chaos. C'est l'administration qui ne fait pas son travail.
Et les parents d'élèves?
Non, les parents d'élèves en réalité, tout le monde veut que son enfant réussisse. Mais ceux qui ne le savent pas font du mal à leur enfant comme ça. Mais si vous voyez que ça devient maintenant une mesure générale ou bien un comportement général, vous êtes obligé de vous laisser aller par les vagues. Mais moi, je dis que la faute incombe à l'État. Cette structure existait depuis très longtemps.
Je rappelle que nous avons fait appel à l'État, mais malheureusement, comme d'habitude, nous n'avons pas eu de suite favorable
à cette invitation. Non, c'est un constat que nous faisons. Ce n'est pas en soi pour jeter l'eau du bain avec le bébé. Hein. C'est pour seulement décrier, c'est pour seulement dire que bon, ça ne va pas à leur niveau là-bas. Parce que les examens, là, les épreuves des examens, ça ne sort pas, ça n'a pas de pied pour marcher, pour sortir dehors. Qui fait sortir ça? Qui a vu ça dans les ordinateurs? Ce n'est pas eux. Ce ne sont pas eux qui ont fait ça, qui font ça.
Mais c'est des cadres qui sont chargés.
Ce sont des cadres. Donc c'est un système qui est au niveau même du département ministériel. Des départements ministériels comme ça. Donc maintenant, il faudrait maintenant réagir. Parce qu'on ne peut pas tenir les enseignants responsables de ça aussi. Non, non, non. Et tout parent d'élève veut que son enfant réussisse. Surtout encore que nous assistons actuellement à la prolifération d'élèves sans diplôme ou bien même avec des faux diplômes.
Donc nous cherchons justement sur cette question de faux diplômes. Oui. Parmi les nouvelles mesures annoncées pour lutter contre la fraude, il y a la sécurisation des diplômes. Cela y couvre à quoi, Étienne Fakaba?
Non, excusez-moi, moi je voudrais vous tenir avant Étienne Fakaba.
Okay,
vous savez, je vais vous dire une chose. Même ces cadres-là que tu vois au niveau du département, Wallahi, la plupart d'entre eux sont là-bas avec des faux diplômes. Dieu m'entend. Je sais que la plupart de la personne là-bas avec des faux diplômes qu'ils ont, je ne sais pas, qui restent d'abord comme ça sur leur poitrine ou bien dans leur dossier, parce qu'en réalité ce ne sont pas des vrais diplômes. Ou quand tu as un diplôme et que tu ne peux pas te servir ton pays, à quoi ça a servi ce diplôme-là? À rien du tout. La moralisation du diplôme-là, il le faut. Et on doit même reprendre tout le circuit maintenant, tout le système maintenant pour voir les diplômes qui sont faux et vraiment les enlever purement et simplement. Parce que je vais vous dire une chose, jeune homme. Le Mali était le pays qui envoyait des enseignants, même en Côte d'Ivoire, même au Gabon. Des élèves m'entendent, beaucoup m'entendent, ils sont au courant de ça. Mais maintenant...
Actuellement, c'est même le cas, mais peut-être en nombre insuffisant.
Non, même pas le cas maintenant. Il n'y a que certains seulement qui bénéficient de ça. Donc, la plupart d'entre tes élèves, ils sont d'ailleurs reculés et recalés maintenant à l'extérieur avec des bourses, donc ils sont en deçà de la formation adéquate. Bon, ils ne peuvent même plus revenir à la maison.
Nous avons un exemple ici dans ce studio qui est Étienne Fakaba Sissoko. Donc je vous redonne la parole pour réagir par rapport à la sécurisation des diplômes. Cela équivaut à quoi?
Si vous permettez, je voudrais d'abord rebondir sur la question de la responsabilité. Je crois que la responsabilité est à trois niveaux.
Oui.
Au niveau de l'État, vous ne pouvez pas... avoir des enseignants qui ne sont pas dans des conditions qui touchent à peine 75 000 francs, 100 000 francs le mois
Et au moment des examens, ces enseignants ont la possibilité d'avoir 500 000, voilà. 1 million tout de suite.
Une fois par
la
an.
Tentation, elle est énorme. Cela n'excuse pas le comportement de ces enseignants-là, cela est clair. Mais je dis que la lutte contre la corruption dans le domaine scolaire et universitaire passe par la revalorisation des salaires de ces enseignants-là et par l'amélioration de leurs conditions de vie. Absolument. Justement.
Actuellement, est-ce que le pays a les moyens d'aller au-delà de ce qui est offert?
Je crois qu'on a... c'est pas une question de moyens. Aujourd'hui, nous sommes à 33% de budget qui sont alloués justement à l'enseignement. Mais comment cet argent-là est reparti au niveau de l'enseignement? C'est ça le problème. Donc, il y a la question de la rationalisation des dépenses qui sont effectuées au niveau de l'enseignement. Parce que la plupart de cette manne financière est dépensée dans quoi? C'est dans les frais de mission, c'est dans l'entretien des véhicules, c'est dans les primes, c'est dans les... Voilà. C'est ce qu'il faut arrêter et revaloriser le métier d'enseignant, revaloriser le salaire des enseignants. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc deuxième aspect, la responsabilité, c'est au niveau de nos parents. Nos parents ont démissionné, il faut le dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand il y a un corrupteur, il y a un corrompu, forcément. Ce sont nos parents qui... connaissance, toutes les implications de leur acte, n'hésitent pas à débourser des centaines de millions. Vous l'avez dit, ils font mal à leurs enfants, malheureusement.
Sans le savoir.
Mais cette sensibilisation, c'est le rôle des parents d'élèves, justement, de l'association des parents d'élèves, qui doit jouer pleinement son rôle. Et l'autre, c'est au niveau, justement, de nous, en tant qu'enseignants. Et vous l'avez dit, vous avez pris des engagements devant Madame le ministre, mais ces engagements n'aboutiront pas parce que les conditions pour que ces engagements-là soient effectivement mis en application ne sont pas encore là. Donc ça, c'est un autre problème. Pour répondre à votre question, je crois que nous sommes...
Sur la sécurisation des
diplômes. Sur la sécurisation, c'est l'informatisation du système éducatif. Au-delà de tout ce qu'il y a comme problème, l'informatisation aujourd'hui permet de régler toute cette question. Mais pourquoi est-ce que cela n'est pas fait? Ce n'est pas un mécanisme compliqué comme on essaie de nous faire croire. C'est un mécanisme assez simple. Quand vous mettez en place ce mécanisme-là, il n'y a pas la possibilité de délivrer un faux diplôme. Parce qu'il y a la possibilité de suivre un étudiant de la sixième année jusqu'à la phase terminale de son cursus universitaire. Donc, pourquoi est-ce que cela n'est pas fait? Parce que ceux-là qui ont la charge de mettre cela en pratique sont eux-mêmes issus de ce système de fraude-là. Oui. Donc, mettre ce système en place, bénéficiant de cela, ils n'ont pas intérêt à ce qu'un tel système voit le jour.
Disparaisse.
Sinon, moi, je crois que c'est un manque de volonté politique qui est à la base de cette Absolument. Situation.
Manque de volonté. Est-ce votre avis, M. Koulibaly?
Tout à fait.
Du syndicat national de l'éducation de base.
Tout à fait. D'abord, nous, on l'a toujours dit, il faut l'augmentation des salaires pour mettre les enseignants dans les conditions. Même pas les enseignants, dans les autres structures. Aujourd'hui, il faut voir, dans le pays, ça ne va pas du tout. L'enseignant a quoi? Tu es interdit même à faire des cours à l'école. C'est là qu'est ton salaire. Mais pendant les examens, je m'excuse du terme, hein, ce sont ces mêmes dirigeants politiques qui sont là, au niveau des examens, des salles d'examen. Des parents d'élèves qui sont dans les CGS. Normalement, au niveau des examens, on ne doit même pas faire du thé dans la cour de l'école.
Mais tout ceci est...
Bon, tout ça, là, ça fait partie
Donnez-moi
l'occasion de m'expliquer un peu.
Juste deux mots. Étienne dira deux mots et je vous laisse la parole.
Bon, allez-y, Étienne.
Voilà. Au niveau de la répression, les mesures de répression sont connues. Mais aujourd'hui encore, ces mesures de répression ont du mal à passer. La loi portant sur l'éducation définit comment un promoteur d'école ou une école doit être sanctionné en cas de manquement grave au texte de la République. C'est défini comment est-ce qu'un enseignant doit répondre devant la loi quand il y a de telles situations. Mais malgré tout cela, on en est encore là. Donc il y a aussi la question de l'impunité au niveau de l'éducation qu'il faudra corriger.
Alors, M. Sissoko, Sissoko, Dugamadi Sissoko, de la Fédération nationale des parents d'élèves.
C'est trop facile pour M. Koulibaly de nous dire que les parents d'élèves sont fautifs. En réalité, nous, quand les enseignants, quand les correcteurs viennent pour les examens, nous les recevons chez
Alors,
nous.
Alors, bien avant la correction.
Oui, enfin, on est en train de gérer actuellement le problème de la fraude. La fraude, là, elle ne vient que pendant les examens. Et en réalité,
il y a
nous.
Les sujets, il y a les sujets qui
mais
apparaissent.
Mais les sujets, ce ne sont pas les parents d'élèves. Ce ne sont pas les parents d'élèves en réalité.
Mais les parents d'élèves.
Il y a des démarcheurs au niveau des établissements, au niveau du département même qui vont voir les gens.
Non, la faute, c'est même avant les examens.
Voilà, les démarcheurs sont en contact avec les parents d'élèves.
Mais en réalité, mais qui n'est pas parent d'élève dans cette salle, même dans ce studio-là? Toi, tu n'es pas parent d'élève? Et toi, Kaba, il n'est pas parent d'élève?
Nous allons observer quelques secondes de pause. Mm-hmm. Le temps est arrivé d'observer la pause. Deux secondes de pause et nous allons poursuivre avec la troisième et dernière partie de ce débat.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, nous sommes de retour dans ce studio pour entamer la troisième partie du débat qui est consacrée aujourd'hui à la rentrée scolaire au Mali. Cette troisième partie va tenter donc de répondre à cette question. Où en est-on avec la réforme des structures au niveau communautaire, les écoles communautaires qui doivent être transformées en structures publiques? Nos invités, Djougamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves, Amadou Koulibaly du syndicat national de l'éducation de base et Étienne Fakaba. Bassisoko, universitaire. Alors, cette question, où en est-on avec la réforme des structures communautaires, le cadre de la refonte de ces écoles communautaires en structures publiques et les enseignants dans tout ça?
Bon, nous acceptons vivement, d'ailleurs, nous souhaitons vivement l'avènement de cette réforme-là. Parce que je veux vous dire, moi, je suis de Kati et je sais qu'il y a des écoles, beaucoup d'écoles communautaires dans mon cercle. Et je sais comment ces écoles-là vivent. Souvent, ils sont obligés de payer l'enseignant avec de l'eau.
En nature.
Avec du riz, avec du maïs. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut vraiment que l'État, maintenant, s'implique pour que ces écoles-là soient maintenant réformées en entité publique. Voilà.
Alors, M. Koulibaly.
Où en sommes-nous avec cette structure? Je peux dire quelque part, l'État a respecté son engagement.
Par rapport à quoi?
Par rapport à la transformation des écoles communautaires en écoles publiques.
C'est vivement que nous souhaitons.
Lors du forum qui s'est tenu en 2008.
Sur l'éducation.
Chaque année, transformer les écoles communautaires, les 20% en écoles publiques.
C'est ça.
L'État avait commencé. Mais avec le problème qui s'est passé en 2012, c'était arrêté. Et le processus a repris. Et les anciens qui enseignaient dans ces écoles communautaires, l'État a commencé. Je peux dire aujourd'hui, nous avons pratiquement fini la commission d'intégration de ces anciens à la fonction publique. C'est pour rehausser quelque part leur salaire, parce que en réalité, ces anciens, ils n'ont que 25 000 francs de l'appui de l'État. 25 000 francs, imaginez-vous. Des chefs de famille, souvent même qui quittent de kilomètre en kilomètre.
Pour les enseignements au niveau communautaire.
Au niveau communautaire. Ça pose énormément de problèmes. Vous voyez ce que ça fait. Donc, nous disons quelque part que par rapport à la transformation de ces écoles communautaires et l'intégration de ces anciens, l'État est en train de respecter ses engagements par rapport au Forum national. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça.
D'accord. Alors, n'y a-t-il pas là un paradoxe pour quelqu'un qui opte pour que les collectivités prennent leur destin en charge, Étienne Fakaba Sissoko?
Non, je crois que ça a été une erreur déjà de faire peser le poids de l'éducation sur les communautés. Parce que de mon point de vue, même si la décentralisation atteint son niveau maximum, il faudra que l'éducation reste du ressort de l'État.
Voilà.
Et ce sont les textes même du pays qui le disent. Mais pour un peu aller un peu plus loin, je dirais que aujourd'hui il y a deux problèmes. C'est que quel que soit le visage que vous essayez de donner à ces écoles, tant qu'on ne reviendra pas à l'élément essentiel qui est la refonte du système éducatif, on ne bougera pas. Parce que, vous avez vu, on a toujours décrié le fait que les programmes scolaires et universitaires ne sont pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Nous avons dit que la question de la formation de nos enseignants, qu'il faudra revoir, multiplier les centres de formation des enseignants. Les IFM, vous l'avez vu dans la conférence de presse de Madame le ministre, elle parle de trois. De la création de trois. Ce n'est pas suffisant pour tout le pays. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut aller au-delà et aussi les centres de formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un ensemble de programmes que les institutions internationales financent pour aider le Mali justement à avoir un taux de scolarisation assez élevé.
Acceptable.
Voilà. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ces programmes-là orientent de plus en plus les gens vers des secteurs qui ne sont pas porteurs d'emploi. C'est ça qui est le véritable problème. Or, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de multiplier les centres de formation professionnelle et tenir compte également des besoins de notre économie et créer les écoles en fonction.
En fonction de ça.
Cela n'est pas également fait. Même si le PRODEG, que ce soit le PRODEG, que ce soit le programme sectoriel pour l'investissement dans le domaine de l'éducation, même si tous ces programmes-là ont repris les mêmes slogans, dans l'effectivité, ça pose problème. Et même au niveau de l'enseignement supérieur, on est en train de passer progressivement au système LMD sans pour autant corriger ces différentes lacunes. Parce que, encore une fois de plus, on passe d'un système à un autre avec les mêmes établissements, avec les mêmes filières de formation et le marché de l'emploi va rester la même chose.
Et surtout avec les mêmes erreurs.
Alors, Djougamadi Sissoko, je pense que M. Koulibaly a envie d'ajouter quelque chose. Allez-y.
Ben, je dirais que par rapport à ce point, mon syndicat d'abord, qui est le CINEB, le Syndicat National d'Éducation, nous sommes contre, c'est-à-dire le transfert des compétences de l'État aux collectivités en matière de l'éducation. Parce que depuis au début, on est mal parti. Depuis au temps du président Alpha Omar, quand on dit un village, une école, on est parti trop vite dans la décentralisation.
Ouais.
Donc on a mis la charrue avant les bœufs.
C'est ça, en réalité. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous trouverez dans un village, le chef du village ou bien le maire de ce village et de cette circonscription préfère que ses enfants aillent cultiver que d'aller à l'école.
Pourquoi?
Parce que pour lui, tout de suite, il a quelque chose à gagner. Et que l'enfant va vers 9 ans, 12 ans de scolarité.
L'école devient, dans ce cas-là, une charge au lieu d'être un espace d'apprentissage.
Voilà.
Alors, le budget le plus important est alloué aujourd'hui à l'éducation nationale. Est-il suffisant et bien utilisé, Djougamadi Sissoko, de la Fédération nationale des parents d'élèves?
Bon, vraiment, je n'aimerais vraiment pas aborder cette plate-bande-là parce que vraiment, ce que j'ai en tête à dire est excessivement grave parce que je ne peux pas comprendre que qu'un travailleur, que tu sois cadre ou je ne sais pas quoi, et que tu n'arrives pas même pas à gérer un budget comme il faut, il passe tout le temps à côté de l'essentiel.
Qui est?
Ben, quand un budget est bien fait, ça se sent, ça se voit.
Il n'y a pas de faille.
Bon, maintenant, regarde, il y a des surfacturations partout. Ils donnent des, c'est que même les heures supplémentaires des enseignants ou bien des mais c'est, on peut pas te dire, ce n'est pas à moi de vraiment, je n'aimerais pas en parler.
Alors,
en tant que parent d'élève, je suis vraiment écœuré de voir souvent que on surfacture des heures supplémentaires uniquement seulement pour charger encore l'État, pour encore lester l'État afin de ne pas faire passer à côté.
Etienne Fakaba,
je crois que
concernant cette question de budget.
Oui. Le problème, ce n'est pas d'augmenter le budget, même s'il y a ce besoin-là. Mais le problème, c'est comment est utilisé déjà les fonds mis à la disposition de l'enseignement. C'est ça qui pose problème. Quand vous regardez les services d'inspection qui sont au niveau des établissements, ces services ne font pas de voyage. Pourtant, touchent à la fin de chaque mois des primes de déplacement, des primes d'inspection. Ça, c'est un problème. Quand vous prenez également l'entretien des véhicules, qui coûte excessivement cher. Même si des véhicules ne sont pas en panne,
on trouve les moyens de
l'envoyer chez le garagiste. Et il y a également un autre aspect qui est les budgets alloués au fonctionnement, budget matériel. C'est tout ça qu'il faut revoir.
Oui.
Je pense que tout cela ne servirait à quelque chose que si l'enseignant déjà est bien formé, parce que le niveau des élèves et étudiants dépend du niveau des enseignants. Donc, il faut, à mon avis, mettre l'accent beaucoup plus sur la formation des enseignants, sur également l'amélioration de leurs conditions de vie et aussi des élèves. Et regardez aujourd'hui, vous partez même au Burkina tout près, vous voyez qu'un élève de la 9e année sait aujourd'hui manier l'outil informatique. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sortent de nos universités sans pour autant
toucher à l'ordinateur.
Exactement. Donc, il y a des investissements qu'il faut mettre en place allant dans ce sens-là. Améliorer la qualité de l'enseignement passe par l'amélioration des conditions de vie des enseignants, mais aussi l'amélioration du cadre de travail de ces élèves et étudiants-là. Mmh. Et aussi la capacité d'accueil de nos écoles laisse à désirer. Aujourd'hui, vous avez, on a même été obligé d'adopter une politique de double vacation, double division.
Certains viennent le soir et d'autres le matin.
Voilà, qui aujourd'hui ternit l'image de notre école. Absolument. Et ne nous permet pas de nous sortir de cette situation de sous-développement.
Amadou Koulibaly, vous êtes du syndicat national de l'éducation de base. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'entamer ou bien de mettre en place les réformes tant souhaitées dans le secteur de l'éducation?
Mais tout à fait.
Et qu'est-ce qui bloque?
C'est l'État. Imaginez-vous que sur le budget national, l'éducation seule représente les 33% du budget national. Et en plus des 33% du budget national, il y a les appuis des bailleurs de fonds qui sont là. Je rejoins M. Etienne. Hein.
Absolument.
La formation des enseignants, quand on dit que l'enseignant n'a pas de niveau, chaque année il y a des réformes. Mais on appelle les enseignants pendant les vacances ou bien pendant les congés, on les forme pendant une semaine, deux semaines. Et vous voulez que ces enseignants aillent donner, c'est-à-dire les cours bien en classe. Or, les formateurs même qui forment ces enseignants sont mal formés.
Ouais.
Il y a tous ces problèmes qui sont là.
Ouais. Alors, concernant les réformes, Djougamadi Sissoko, des parents d'élèves.
L'État n'a pas encore joué son rôle. Parce qu'avant, quand les enseignants là allaient pour même la pédagogie convergente là, ça faisait 15 000 francs par jour pendant un mois. Et il y avait encore les outils didactiques pour pouvoir au moins former ces enseignants-là. Mais actuellement, ils te donnent 3 000 francs, c'est pour une semaine ou 3 ou 4 jours. Mais en 3 jours, qu'est-ce que cet enseignant-là peut en réalité apprendre et puis le restituer aux enfants? Et encore, les outils, les supports ne sont plus là. Alors, vraiment, je pense que vraiment, c'est un échec. Il faut que l'État même se ravise de ça et puis revienne en arrière.
Mmh. Etienne, la mise en place des réformes est-elle possible aujourd'hui au Mali?
Pas avec des gens qui n'ont pas, en tout cas, conscience du danger que nous sommes en train de courir.
Et quand vous dites les gens, les autorités?
Les autorités. Et c'est cette impression, malheureusement, que j'ai, qu'ils n'ont pas encore pris la mesure de tout le danger qui nous entoure si nous n'arrivons pas, dans quelques années, à freiner cette déperdition de notre école. Parce que les réformes sont dans tous les secteurs.
Oui.
C'est dans tous les secteurs aujourd'hui qu'il faut réformer. Vous avez vu récemment, lorsqu'on a organisé le forum sur l'éducation et une rencontre autour de l'éducation, qui n'a servi en réalité que de réunir quelques enseignants pour pouvoir bénéficier de quelques primes. Or, les conclusions du Forum national de l'éducation de 2008 sont disponibles, qui pourraient permettre à notre école, en tout cas, d'avoir un nouveau visage.
Absolument.
Mais pourquoi est-ce que cela n'est pas mis en place? Je crois qu'ils n'ont certainement pas la compétence de mettre en application ces dispositions. Soit, en termes de volonté, il y a quelque chose que nous autres, nous ne voyons pas qui freine. Mm-hmm. Ce n'est pas un problème de budget, mais c'est simplement une question de vision et de
volonté.
Alors, nous allons entamer donc la dernière question de ce débat qui est consacrée aux partenaires sociaux de l'école. Tout le monde souhaite une école apaisée aujourd'hui. Est-ce que le fait de se taire sur les difficultés permet aujourd'hui à l'école malienne d'aller de l'avant? 30 secondes pour tout le monde. D'abord, Djougamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Une école apaisée a été réclamée par tout le monde et sollicitée par tout le monde. Mais en réalité, quand l'État même donne 4 millions ou 12 millions, 40, 20 millions à l'AEM pour l'organisation de ces structures de base, et pendant que le congrès de la Fédération nationale des parents d'élèves pour 12 millions, on n'a pas pu avoir ces sous-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Et c'est nous qui, chaque fois que l'occasion se présente, nous nous levons pour apaiser les enfants.
Merci beaucoup, Djougamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves. Alors, M. Koulibaly, Amadou Koulibaly du syndicat national de l'éducation.
Nous voulons une école apaisée et performante. Raison pour laquelle, quand le pays était dans un trou, en 2012, nous avons mis nos doléances en veuse.
J'étais là-bas.
On a mis ça en veuse. On a voulu rien faire. Mais l'État, à son tour, ne vient pas vers les partenaires pour qu'ensemble trouvent la solution.
Merci beaucoup.
C'est ce qui pose
Monsieur
problème.
Koulibaly. Étienne, dernier mot.
Une école apaisée passe d'abord par une école qui est consciente des enjeux que nous sommes en train de traverser. Et les enseignants ont un grand rôle à jouer dans ce cadre-là. Ils doivent de plus en plus sensibiliser les élèves et étudiants sur les dangers que nous sommes en train de traverser.
Moi, je n'ai que 15 secondes pour boucler ce débat.
Et pour y arriver.
Merci beaucoup à vous tous. Le débat portait sur la rentrée scolaire aujourd'hui. Il a été réalisé par Sekou Gadigo. À la mise en onde, Salim Diouara. Je suis Famous Sidibé. À demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.